Merci de nous être fidèles chaque mercredi depuis novembre 2010 sur votre radio locale. C'est Wagon Livre, la seule heure littéraire sur les ondes en Bourgogne. Et c'est donc sur Radion 90.5 ou via internet sur le www.radion.fr. L'émission que nous vous proposons ce soir a été enregistré en public à Avallon chez nos amis de l'Autre Monde, 42 Grande Rue. Merci au public de l'Autre Monde qui est avec nous. Et bien sûr, merci à Carole Amicel et à Evelyne Levallois, nos charmantes libraires qui nous accueillent donc dans leur librairie pour y enregistrer votre émission littéraire et pour partager ces moments conviviaux, ces apéros de l'Autre Monde qui sont régulièrement organisés ici à Avallon. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre invité. Il s'agit ce soir d'Isabelle Asensio. Isabelle Asensio, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'être devant le micro et devant le public. Je vous sens intimidée.
Bah oui, parce que je n'ai pas vu cette librairie depuis l'ancien propriétaire. Je suis assez subjuguée par la forme qu'elle a prise. Voilà, donc je suis contente d'être là.
Merci.
Bien sûr, nous sommes aussi, elle est à nos côtés, Evelyne Levallois est à nos côtés. Bonsoir, chère Evelyne, et tu interviens quand tu le souhaites, bien évidemment.
Bonsoir.
Isabelle Asensio, alors vous êtes devant notre micro ce soir pour nous présenter votre dernier roman qui a pour titre « Un poisson sans bicyclette ». C'est un roman disponible aux éditions Verticales qui est sorti en février, je crois, février de cette année 2014. Je vous présente rapidement, encore qu'on peut prendre un peu le temps. Vous êtes née dans le Var, à Olioul. En 1900, je peux donner l'année. Merci beaucoup Isabelle Asensio. Vous êtes née en 1967. Vous êtes actuellement professeur agrégé de lettres modernes.
Oui.
Alors vous êtes connu un peu dans, on va dire à Clamcy et localement, plus spécifiquement à Avallon, puisque vous avez enseigné un certain nombre d'années au lycée des Chaumes à Avallon. Et puis par désir ou par le jeu des mutations.
Non, par désir d'aller un peu vers l'est. Il faut toujours aller un peu vers l'est.
C'est un peu comme Lise, sans bicyclette. Vous êtes allé un petit peu, vous êtes mis au bord du chemin et quelqu'un s'est arrêté. Vous êtes parti dans le Jura, donc
ça,
à Arbois. On est bien d'accord, hein.
Arbois.
En lycée.
Alors je travaille au lycée de Champagnol, qui est sur le premier plateau jurassien, donc dans la neige.
Formidable. Vous savez que je suis franc-comtois, donc je suis très heureux de savoir que vous vous rapprochez de ma région d'origine. Trois romans à votre actif. Dont deux parus sous un autre nom.
Oui.
Comment se fait-ce ?
Quand j'ai commencé à écrire, j'ai pensé que j'aurais plus de liberté avec un pseudonyme. Et j'ai pensé que j'aurais plus de liberté au moment de l'écriture, parce que c'était un peu comme un masque, un pseudonyme. Et puis en publiant, je me suis rendu compte que la première chose que je faisais, c'était de dire aux gens que c'était moi. Donc, à l'occasion, parce que j'étais contente de les avoir écrits, alors ça devenait un peu bizarre, et du coup, à l'occasion d'un changement d'éditeur, je me suis dit, bon, allez, j'assume, je vais mettre mon nom, et en fait, ça marche très bien comme ça.
Et votre nom, donc, je le répète, c'est Isabelle Asensio. Alors, premier roman, enfin, c'est peut-être pas le premier, il y a eu surtout chez Vertical, paru donc il y a 2 ans, Drama Queen, qui a reçu un prix franco-suisse. Vous voyez, ça vous rapprochait déjà du Jura.
Oui, c'est ça.
C'était un signe.
Alors, c'était pas un signe, parce que, en fait, j'ai eu une chance inouïe. Je suis arrivée dans le Jura au moment de la publication de ce roman. Et quand ils ont vu qu'il y avait un auteur jurassien, voilà, c'est en tant qu'auteur jurassien, parce que je venais d'arriver, ils ont lu ce roman, ils l'ont vraiment aimé. Et ils ont décidé que j'étais un auteur jurassien. Franchement, je l'étais depuis 3 mois. J'ai trouvé que c'était un accueil extraordinaire. Et donc, je me suis promenée en Suisse parce qu'il y avait, avec ce prix, l'obligation d'aller faire des rencontres en Suisse et en Franche-Comté. Donc, j'ai fait ça pendant l'hiver. Ça s'appelait Les Petites Fugues et Les Versants littéraires. C'était très, très intéressant.
Donc, ce prix franco-suisse s'appelle, c'est le prix Alpha que vous avez reçu en mai 2013.
C'est ça.
Alors le moment est venu, on va quitter la Franche-Comté, on va quitter le Jura, c'est un peu le retour aux sources, en tout cas dans l'espace et cette chaleur de l'arrière-pays varois, où se situe l'action donc, de ce roman dont je rappelle le titre, Un poisson sans bicyclette. Nous sommes dans l'arrière-pays varois, il faut imaginer les cigales, il faut imaginer un été caniculaire. Nous sommes en 1976.
Un été caniculaire,
oui.
Un été de grande canicule, effectivement, et la chaleur est presque un personnage dans le roman.
Oui, tout à fait. La chaleur est... Alors, du point de vue de l'écriture, la chaleur, c'est pas franchement facile à... Il n'y a pas tellement de vocabulaire autour de la chaleur, parce que quand on a dit sueur, cigale... On tourne autour des mêmes mots, c'est pas nécessairement porteur. Là, j'écris un roman qui se passe dans le nord où il fait froid, il y a beaucoup plus de choses à dire, je trouve, que sur la chaleur.
La chaleur assèche le vocabulaire.
Voilà, la chaleur, oui. Du coup, il y avait un challenge à évoquer la chaleur, comme d'ailleurs d'autres éléments du livre, particulièrement les années 70, quand on a parlé des cheveux longs, après, on est un peu bloqué aussi. Enfin, il y avait comme ça des challenges intéressants.
Enfin. Dans votre roman, bon, l'époque est identifiable,
oui,
à travers les musiques, il y a des titres de films, il y a des voitures, il y a des actualités, et puis il y a les roux-doudous.
Oui.
J'ai retenu les roux-doudous. Il faut poser l'action. Finalement, il n'y a pas tant d'action que ça.
Non, parce que c'est quand même, le titre le dit, hein, un roman dans lequel les personnages ont un petit vélo dans la tête, donc on n'a pas besoin de beaucoup d'action dans la mesure où il y a beaucoup de fantasmes. De la part de la plupart, enfin des deux personnages principaux, les deux femmes, enfin la jeune fille, l'adolescente, on va dire, Liz
Jane.
Et la jeune femme Jane. Donc en fait, c'est vrai, autour d'une action qui est assez limitée, il y a du fantasme qui fait comme ça, qui met des possibles et qui peut même mettre parfois dans une inquiétude, alors que bon, finalement, il ne se passe rien. Quoi.
Alors il faut tout de même expliquer à celles et ceux qui n'ont pas lu le roman de quoi il retourne. Donc nous sommes dans l'arrière-pays varois en 1976, une bâtisse ayant appartenu à un vigneron décédé est rachetée par une bande de jeunes gens, guidés par un leader, un gourou,
oui,
un chef, c'est le grand Koudou. Son prénom, c'est Serge, hein, en fait.
Oui, en fait, oui, bien sûr. Parce que son ami s'appelle Jane, donc automatiquement, forcément, c'est Jane et Serge. Je ne sais pas très bien comment j'aurais pu l'appeler autrement. Mais ceci dit, son prénom n'est dit qu'une seule fois dans le roman. Et c'est un peu un clin d'œil, parce que, bon, voilà, c'était amusant de... Mais lui, il se fait appeler Grand Koudou, et c'est intéressant, parce que depuis le début, les gens entendent Gourou dans Koudou, et je suis assez d'accord, parce que... C'est le leader, c'est l'idéologue du groupe, c'est celui qui sait pourquoi on est là, c'est celui qui a des idées politiques. Les autres, c'est des brêles quand même, c'est des suiveurs, c'est des gars, voilà, et des filles qui savent pas très bien pourquoi ils font ça, mais c'est lui qui a l'idéologie, en fait, qui porte l'idéologie du groupe.
On a l'impression qu'il a puisé cet esprit de communauté libérée, communauté libertaire. Il a puisé ça en Afrique, où il se trouve au début du roman.
Moi, je vois plus qu'il l'épuisait en France, et il se trouve qu'en Afrique, il trouve des référents, enfin, il trouve des situations qui lui permettent de repenser plus largement. Il est tiers-mondiste aussi, comme il est féministe, en fait, ça va avec le bonhomme, hein, puisqu'il sauve les femmes, et puis il sauve le tiers-monde en même temps. C'est celui qui libère les autres, et c'est pour ça que ça foire, en fait.
Il a beaucoup de prétentions.
Oui.
Alors, ce qu'il faut expliquer,
c'est que c'est... Il a beaucoup de femmes aussi, je trouve.
Ben oui, c'est la libération sexuelle, hein. Oui. C'est jouir sans entrave, ça lui va bien, lui, ça lui... En fait, finalement, ça l'aide, ça le sert.
Donc ce projet communautaire donc, doit naître dans cette bâtisse en plein milieu donc, du vignoble de la Provence, au milieu des cigales, au milieu de la pinède, et sous le regard d'une adolescente de 13 ans,
oui,
qui se prénomme Liz, qui effectivement vit seule avec son père, qui dans le roman s'appelle le capitaine, et elle observe avec envie, avec un peu de désir, ces hommes et ces femmes qui essaient de faire vivre ce projet communautaire à l'égard d'un village qui porte sur eux un regard suspicieux,
oui,
les prenant pour des hippies,
oui,
et les soupçonnant de choses, je ne sais pas, néfastes en tout cas pour l'équilibre, la tranquillité, la sécurité de ce petit paysage méditerranéen, pagnolesque.
Et c'est ça. Liz, en fait, il faut voir, bon, bah, c'est une adolescente assez jeune, elle a 13 ans et on est en 76, donc ce n'est pas les 13 ans de nos jours. elle a rien vu et finalement elle s'ennuie ferme là où elle est, elle observe les insectes et finalement elle voit arriver ses trentenaires un peu comme une colonie d'insectes. Elle va les observer à la jumelle et puis elle va voir comment ça fonctionne. Mais Lise a dans l'idée qu'il faut qu'elle sorte de ce village parce qu'elle veut vivre des choses, elle veut sortir de là. Bon, on est dans un thème de l'adolescence assez classique. Et elle est convaincue depuis l'affaire de Patrick Henry que le seul moyen de sortir de ce village, c'est de se faire enlever, par un homme, quoi. Donc elle est contente parce qu'ils ont des sales têtes avec leurs cheveux longs, puis ils ont un combi Volkswagen. Enfin bon, ils sont pas très clean et elle pense qu'il y a bien quelqu'un dans ces hommes-là qui va l'enlever.
Alors, on va reparler de cette communauté de gentils ahuris, parce qu'effectivement, ils sont présents. Les hommes n'ont pas le bon rôle.
Bon, les femmes ne sont pas très reluisantes non plus.
Oui, mais elles sont plus hystériques. Elles nous donnent un petit peu le rire et le sourire. Les hommes sont un peu pitoyables.
Oui, mais je pense que les femmes le sont aussi. La communauté l'est de manière globale. Je pense que là, il y a une... justement par rapport à l'idéologie qui devrait être celle de cette idéologie libertaire et féministe, c'est un groupe qui n'a pas suffisamment réfléchi en fait. C'est un groupe qui est parti sur des idées qui sont un peu des leitmotivs là, qui sont un petit peu, moi j'ai repris les slogans des années 70 et je l'ai mis un peu ça à la sauce sud de la France, donc loin de Paris, loin de justement d'une réflexion politique solide. Et ça donne, des gens qui sont tous un peu minables, enfin, communément minables.
Alors, on quitte un peu les minables, on marque une première pause musicale avec... alors, moi, je la connaissais pas, j'avoue. C'est Colette Mani.
Oui.
Alors, j'ai demandé à Radion si on avait Colette Mani, et notamment le titre Mélocoton, mais aujourd'hui avec Discotone. Mélocotone, il faut dire.
Oui, on dit Mélocotone, oui.
Alors, effectivement, on avait ça dans nos archives. J'ai pensé qu'en illustration à notre entretien, ce serait idéal, parce que c'est aussi un leitmotiv. Les chansons sont omniprésentes. Vous avez totalement recréé. Donc, on écoute Mélocotone de Colette Mani et on se retrouve dans une poignée de minutes, bien sûr, avec notre invitée Isabelle Asensio pour Un poisson sans bicyclette, roman disponible aux éditions Verticales.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, nous, elle est maman. J'en sais rien. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Elle joue pas avec moi. J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Boule d'or, j'en sais rien. Viens, donne-moi la main.
Un wagon livre qui nous ramène au milieu des années 70 avec le dernier roman de notre invitée Isabelle Asensio, une émission enregistrée en public.
Bravo.
Merci le public. Enregistré le 18 juillet dernier, alors qu'il faisait particulièrement lourd, mais ceci dit, cette chaleur sied particulièrement, disons, à la conversation autour de votre roman, puisqu'il fait aussi très très chaud dans ce roman « Un poisson sans bicyclette » aux éditions Verticales. Alors, on a parlé de cette communauté qui s'installe, d'ailleurs, à la page 124 du roman. Vous écrivez, Isabelle Asensio, les 12 et l'enfant, parce qu'il y a une toute petite fille qui s'appelle
Anao,
Anao, Et les 12 et l'enfant, je me suis dit qu'il y avait forcément un clin d'œil.
Alors ça, c'est très intéressant, ce genre de remarque, parce que je ne pense pas qu'il y ait un clin d'œil, mais ceci dit, je pourrais relire avec cette idée-là. Non, je n'avais pas vu les 12 et l'enfant.
Alors, une communauté qui s'installe, oui, les 12 et l'enfant, ils apportent une certaine parole libertaire.
Oui, mais un peu foireuse.
Libérée,
quand même,
foireuse.
La parole libertaire.
Et quelle idée d'avoir voulu fouiller l'histoire des années 70, d'avoir voulu faire remonter dans ce contexte méditerranéen cet esprit de liberté, de révolte, de revendication en tout cas, abouti ou non.
Ben, d'abord, j'ai eu une réflexion sur... on a beaucoup entendu parler des problèmes autour du genre de nos jours, et je me suis posé la question de savoir si on n'était pas en régression un peu par rapport à des choses qui ont été dites, et même dites de manière solide par des sociologues, dans les années 70. Donc j'ai commencé à me dire, je vais faire quelque chose qui se passe maintenant, et puis je me suis dit, c'était comment dans mon enfance? Parce que clairement, moi j'avais 9 ans en 76, donc tout ça, je l'ai vu comme on voit quand on est enfant, c'est-à-dire c'était les grands, ceux que j'enviais, c'était les trentenaires quand on a 9 ans, on se dit, moi je serais comme ça. Donc les femmes, c'était mes mères, je vais dire en fait, les mères et les amis, enfin ma mère et les amis de ma mère, et y a eu une sorte de rêve que j'ai eu à l'époque, moi, en tant qu'enfant. Et comme maintenant je suis plus âgée que les personnages, c'était intéressant, je trouve, d'avoir, et c'est peut-être pour ça que le personnage de Lise est arrivé, d'avoir deux regards, le regard un peu ébahi de la gamine qui les voit et qui en vit et qui imagine des choses, et puis le regard un peu corrosif que j'ai sur ces gens qui finalement sont politiquement assez mal situés. Et il m'a semblé qu'il fallait que moi, dans mon histoire personnelle, peut-être que c'est ça sans doute le départ, il fallait que je commence par cette réflexion-là sur les années 70, sur comment moi j'ai été, comment je me suis intéressée à ces questions féministes, avant d'arriver à quelque chose d'actuel. Et puis vous voyez, un roman, ça marche comme ça, on se dit, je vais commencer en 76, paf, je vais passer par là, puis j'arriverai. Et puis en fait, on commence en juillet 76, et puis en août 76, il y a déjà 280 pages, et voilà, on s'arrête là, et on se dit, la deuxième. Deuxième pan se fera après. Mais malgré tout, dans la réflexion sur les enjeux politiques qu'il y a dans ce roman, il me semble qu'il y a une grande actualité.
Ah, il s'agit donc quand même, quelque part, ce projet communautaire, c'est une utopie.
Oui.
C'est une utopie, d'une part. D'autre part, il s'agit quand même de changer la vie, oui, changer le cours du destin de ces femmes, c'est-à-dire sortir du carcan dans lequel elles ont été placées. Ah, il me semble qu'à un moment, il écrit cette trilogie Poirot, Layette et... Il me manque l'autre terme, je l'ai oublié.
Balai-brosse, non?
Exactement, merci. Vous avez dû écrire ce roman, c'est pas possible. Tout à fait. Et puis, il y a pour cette petite Lise, cette adolescente au bord de la route, qui est touchante, qui est donc votre double littéraire, cette petite Lise qui regarde ces hommes, alors que les hommes, eux, en fait, ils sont pas du tout productifs. Passent leur vie à faire des acrobaties, ils s'entraînent pour un spectacle qu'ils veulent aller porter en Amérique du Nord.
Oui, mais ils sont pleins de bonnes intentions, en fait. Et ben, le groupe entier de la communauté, ils sont tous pleins de bonnes intentions, mais le problème, c'est que... Bon, moi, je suis partie un peu aussi de ces slogans féministes. Il y avait ce « Ne me libère pas, je m'en charge », qui me paraît vraiment central dans le roman. Bon, la difficulté dans cette communauté, c'est que c'est Grand Coudou qui libère les autres. C'est lui qui est féministe à la place des femmes, donc il libère particulièrement Jane des tâches traditionnelles qui incombent aux femmes, mais comme il ne l'autorise pas à entrer dans les autres domaines, domaine politique, domaine du discours, en fait il fait d'elle une pure cruche, parce que finalement elle ne sait pas élever son gosse, elle ne sait pas faire la cuisine, mais elle a pas non plus, elle maîtrise pas non plus le discours, elle maîtrise pas non plus le pouvoir, donc elle dit à un certain moment, mais moi je suis la cruche absolue, quoi, je suis juste bonne à rien. Donc on a ce Grand Coudou qui est féministe de cette façon, et il est d'ailleurs aussi tiers-mondiste de cette façon, puisqu'il est en train de libérer l'Afrique, puisqu'il a décidé d'eux. Et ces personnages, à partir du moment où c'est un homme qui décide de libérer les autres, on n'est pas dans le « ne me libère pas, je m'en charge ». Et c'est ça qui est un peu foireux, de la part des filles et des garçons. Là, il y a une... Et le contrepoint de Lise est assez intéressant, parce que finalement, cette gamine-là, elle décide qu'elle veut être enlevée par un homme. Elle pense que pour être libérée, alors elle, de son ennui, de son village, de son enfance, de son père, bon, dans les thèmes habituels donc de la révolte adolescente, elle pense que pour sortir de là, le seul moyen qu'elle a, c'est de se faire enlever par un mec méchant à la Patrick Henry, et donc risquer d'être découpée dans une champignonnière. Bon, voilà, il y a Ranucci derrière, c'est l'époque où il y a tout ça dans le fantasme des gens qui habitent dans le village. Et plus le roman avance, plus cette gamine se... Bon, elle passe de « il faut que je me fasse enlever par un homme et ça risque d'être dangereux, je vais prendre le risque » à « finalement c'est curieux, je me retrouve dans une voiture, c'est une femme qui conduit, ah, je croyais que les femmes ne conduisaient pas les voitures, mais finalement qu'est-ce que ça change ?» Puis comme personne n'est foutu de l'enlever, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se libère toute seule. Je ne vais pas dire la fin, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas lu la fin. Donc elle passe, elle aussi, de « il faut qu'on me libère et je vais payer le prix fort, à la manière des femmes. Ah, il faut donc que je sorte de ma famille et que j'épouse un homme et que je sois la bonne à tout faire à la maison. » Voilà, c'est le seul moyen de sortir de mon enfance, c'est ça. Je me débrouille toute seule, ne me libère pas, je m'en charge. Je pense qu'il y avait ça. C'est un contrepoint un peu enfantin, finalement, de la réflexion politique de ce qui se passe du côté des trentenaires.
Alors, en fait, quelle est la véritable activité libératrice de ces femmes ? Parce que finalement, dans leur groupe atelier, elles font du tissage, enfin, oui. Elles filent la laine, elles sont un peu ridicules, enfin, on les voit filer la laine.
Oui.
Et finalement, il y en a une qui dit « Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire à la fin ? On n'allait quand même pas mettre les mains dans l'huile de moteur et taper dans le ballon juste pour avoir l'air libéré. »
Oui, bon, parce que là, vraiment, le problème, c'est le problème de la manière dont on est socialisé. Donc, évidemment, clairement, elles ont plus envie de faire du tissage que de mettre les mains dans l'huile de moteur. De fait, la question, c'est de se poser, c'est de se demander si c'est essentiel, si c'est les féministes essentialistes disent qu'il y a des particularités des femmes, même les féministes essentialistes, je ne parle pas des autres, hein, qui ne sont pas féministes, il y a des particularités des femmes qui font qu'elles sont plus intéressées par la laine de tissage que par l'huile de moteur. Bon, donc, mais elles n'ont pas réfléchi vraiment à ce problème-là, à la raison pour laquelle elles préfèrent faire du tissage que mettre les mains dans l'huile de moteur. Et elles disent, on n'allait quand même pas faire semblant d'eux pour avoir l'air libéré. Elles le disent à Marie-Lou qui, elle, représente la partie extrême, la partie vraiment
c'est
radicale.
Un peu,
oui, bah, c'est le féminisme.
Elle a le discours en tout cas.
C'est le féminisme matérialiste en fait, hein, donc qui dit que en fait on est socialisé d'une certaine façon. Alors de fait, on ne va pas mettre les mains dans l'huile de moteur si on préfère faire du tissage, mais au moins on est lucide dessus. Au moins on est conscient qu'on n'est pas né avec ce goût-là, qu'il a été fabriqué par une éducation. Bon, et c'est ce que les filles n'acceptent pas. Elles disent, nous, c'est parce qu'on aime le tissage qu'on fait du tissage. Donc c'est là Marie-Lou, qui est l'idéologue féministe radicale qui fait pendant à grands coups d'eau, en fait. Elle est très en colère à ce moment-là de voir qu'il n'y a aucune pensée politique réelle derrière. Et elle leur dit, qu'est-ce que vous allez faire dans la communauté ? Vous allez faire des écharpes, vous allez faire la cuisine. Alors les autres, elles ne comprennent pas très bien, mais ça se passe tout de suite comme ça. Puisqu'on a Tina qui se retrouve, elle le dit elle-même, puisqu'elle est italienne, voilà, à faire les tagliatelles, alors qu'elle ne sait pas pourquoi c'est elle qui les fait. Mais personne ne lui a demandé de les faire. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que les hommes qui sont des brêles là-dedans. Hein. Parce que les femmes aussi, elles sont dans leurs ornières, et alors elle est en colère. Hein. En fait, c'est l'image de la femme qui fait à manger, puis qui fait la gueule en même temps, parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle le fait, mais elle le fait. Il y a un manque de réflexion là, derrière, c'est pour ça que ça foire, en fait. Enfin, à mon sens, hein, après, il faut leur demander, mais...
Notre fidèle Evelyne Levallois a une question.
Oui, je voulais savoir le titre, si on va dire le slogan central, c'est « Ne me libère pas, je m'en charge », pourquoi le titre c'est « Un poisson sans bicyclette » ? Parce que ça fait référence à un autre slogan.
Oui. Alors, bah, parce que je trouvais qu'il avait un côté... Ce qui était intéressant quand j'ai regardé les différents slogans de l'époque, bon, « Un enfant si je veux, quand je veux, mon ventre est à moi », un homme sur deux est une femme. Enfin, j'avais regardé une série de slogans qu'on voit dans les archives de l'INA quand on regarde par exemple les manifestations 71 pour l'avortement. Enfin bon, donc il y avait des... Je trouvais que celui-là évidemment était intéressant parce qu'il est il est rigolo en fait. Il y a quelque chose d'un peu surréaliste dans la manière dont le titre est construit, surtout quand on le connaît pas. Et je me suis rendu compte en interrogeant des femmes qui ont 20 ans de plus que moi et donc qui avaient l'âge des adultes dans le roman, qu'en France, parmi ces gens qui avaient été, ces femmes qui avaient été des militantes du planning familial et des milieux féministes, beaucoup d'entre elles ne connaissaient pas le slogan. Alors que quand on va en Allemagne ou quand on va en Angleterre. Bon, il est vraiment très connu. Et j'ai joué un peu de ça en me disant ça va donner un côté surréaliste, un poisson sans bicyclette, ça pourrait être aussi, enfin je sais pas, ça peut aussi évoquer d'autres choses pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le slogan. D'autant que il y a quand même le thème de la bicyclette dans le. Je parlais des petits vélos que les personnages ont dans leur tête, mais bon, Liz, elle est constamment sur son vélo. Bon, Jane, elle dit bicyclette parce qu'elle est anglaise, donc. Il y avait un poisson, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que ça colle très bien, parce qu'on a toujours des gens qui justifient des choses a posteriori, donc un poisson ça marche très bien, puisque Liz elle a très envie d'aller à la mer, donc un poisson sans bicyclette, en fait c'est plutôt une bicyclette sans poisson, parce qu'elle a son vélo, mais elle n'arrive pas à aller à la mer. Et ça fonctionne assez. Mm-hmm. Voilà, c'était... Bon, je pensais que voilà, si je mets un titre « Ne me libère pas, je m'en charge », c'est quand même assez... J'aurais peut-être dû oser ça.
Non, moi, je trouve que c'est plus rigolo.
En tout cas, une femme a besoin d'un homme like a fish needs a bicycle.
C'est ça. C'est ce que disaient les féministes dans les années 70. Alors, les féministes radicales, évidemment, à ce moment-là.
Alors, le mariage est un piège à con, on en reparle après la pause musicale. Alors, j'ai pensé qu'on pouvait continuer dans la nostalgie. On va écouter My Lady d'Arbanville, puisque je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Hein, comment devrais-je le dire ? My Lady d'Arbanville.
C'est très bien. C'est
hein,
très
Cat
bien.
Stevens.
Qui est joué à la guitare par Grand Coudou, parce qu'on est obligé, en fait. c'est pas possible d'avoir un Grand Coudou s'il n'a pas la guitare et s'il n'a pas du Cat Stevens. Voilà,
mais il n'a pas les cheveux longs, ça, c'est un peu un loser.
Oui, ouais. Mais il a des lunettes. Bah, c'est quand même une époque particulière, 76, même du point de vue musical, là, parce que vous voyez, à un moment, on va doucement vers le disco, à un moment, ils font une espèce de...
Il y a Bonnie M, il y a des dicons.
Voilà. Ils font une fête, et alors à ce moment-là, elle est sonorisée, et puis là, c'est pas Cat Stevens, ça, là, ça y va, et... Bon, voilà. Bref, donc, oui, c'est Bonnie M qui arrive.
Bon, là, d'abord, c'est Cat Stevens, hein, sur Radio, on se retrouve dans quelques minutes avec notre invitée, Isabelle Asensio, une émission enregistrée en public le 18 juillet dernier à la librairie L'Autre Monde, à Avallon.
My Lady d'Arbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady d'Arbanville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My Lady d'Arbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady d'Arbanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter, your skin has turned to white, your skin has turned to white. My Lady d'Arbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. La 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 la. My Lady d'Arbanville, why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady.
brave new life. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
Alors, aux quatre coins de France ou d'Europe, on peut écouter Radion sur le www.radion.fr et même aux quatre coins du monde. Oui, 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 effectivement, sur le www.radion.fr. Et on peut écouter Radion sur la bande FM à Migennes, à Auxerre, à Toussy et dans tout le département de Lyon. L'émission de ce soir a été enregistrée en public, un public fidèle. Une émission enregistrée le 18 juillet dernier à la librairie L'Autre Monde, 42 Grande Rue à Avallon. Devant notre micro ce soir, Isabelle Asensio pour son dernier roman Un poisson, son bicyclette aux éditions Verticales. Et puis je suis accompagné d'Evelyne Levallois, libraire à Avallon, qui peut-être peut, si elle le souhaite, reprendre la suite de notre entretien avec question, une remarque.
Quand j'ai lu votre roman, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, un roman sur 68 qui commence en 76. Hein. C'est quand même très tardif. Hein.
Oui.
On peut avoir que les dégâts de 68, et pas tellement...
Oui, oui, oui. D'ailleurs, les personnages, je fais juste remarquer que c'est pas des... ils sont pas très jeunes, et alors il y a un point qui le prouve. Ils avaient peut-être des deux chevaux en 68, ou bien des Solex. Mais là, ils sont à un âge où ils ont une R16. Alors, la R16 en 76, c'est pas n'importe quoi. Donc, on voit déjà que ce sont... Bon, je dis des trentenaires, je sais pas exactement quel âge ils ont, mais en tout cas, c'est pas des tout jeunes et c'est pas des gens démunis, en fait. Ils arrivent avec leur R16 et c'est... Bon, pour moi, déjà, c'est comment survivre à 68, comment prendre 8 ans par rapport... je fais un calcul bizarre, là. 6, même, non.
8,
c'est ça, oui. Comment vieillir, comment changer de voiture, en fait, comment se retrouver dans une R16 tout en étant fidèle à ce qu'on a été ou à l'idéal qu'on a eu, en fait.
Le mariage est un piège à con.
On ne rentrera plus à la maison. Non, 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 non.
Qu'est-ce que c'est que cette audace
J'aimerais bien qu'on ne me tienne pas pour responsable des slogans des années 70. Oui, le mariage est un piège à con. Bon, là, clairement, dans ces années-là, en tout cas... alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un revirement, puisqu'il y a une revendication des mariages pour tous. Mais on n'est pas dans, ça ne veut pas dire la même chose, et on n'est pas dans la même époque. À ce moment-là, le mariage, oui, pour une femme, c'est un piège à con. Oui, elle va rentrer dans les tâches domestiques. Et voilà, bon, à partir de là...
C'est la femme de Vince, je ne sais plus. C'est
Tina, oui.
C'est Tina qui dit, en parlant de son mariage avec Vince, « On a été trop cons à l'église, à jurer la fidélité, tous les deux. D'un coup, il trouve que ça ne lui ressemble pas, peut-être même qu'on l'aurait forcé. Il a complètement oublié qu'il a rampé pour t'avoir... » Ah non, ça doit être une copine qui lui dit, alors... Oui. Pardon. « Il a complètement oublié, donc Vince a complètement oublié qu'il a rampé pour t'avoir en costume trois pièces qui lui serrait le kiki, d'accord pour faire le beau devant la famille, et qu'on a bâclé la cérémonie parce qu'il te voulait tout de suite, toi, tout entière, dedans, dehors, pour la vie. »
Oui, enfin, là, c'est Tina qui est très en colère, parce qu'au moment de partir pour cette communauté, Vince décide qu'il faut divorcer, qu'on ne peut pas aller avoir un projet communautaire libertaire en étant marié. Donc, il dit à Tina, on a été trop cons à se marier, donc on va se divorcer. Et alors là, elle est très en colère, parce qu'elle dit ça à grand coup doux, elle est très en colère contre Vince, et elle lui dit, voilà, il est en train de dire, donc elle dit, changement d'avoine réjouit le baudet, hein, il a envie d'une liberté sexuelle, et il est, il est entravé par le mariage. Donc lui aussi, il considère que le mariage est un piège à con à ce moment-là.
D'ailleurs, Lise, revenons à Lise, dont la mère est morte dans une sorte d'indifférence de son mari.
Bah, elle est morte d'un avortement clandestin. Alors c'est pas franchement une indifférence, c'est une impossibilité d'en parler, une impossibilité de partager le deuil. Et puis aussi, d'une certaine manière, c'est dit de manière très rapide dans le roman, c'est pas du tout central, mais le mari est atterré par ce qui s'est passé, parce que c'est quelque chose qu'elle a fait de son côté sans qu'il le sache. Et puis voilà, la mort est... est arrivé, oui. Bien sûr, alors il est atterré par ce qui s'est passé, par le fait d'avoir été marié avec quelqu'un qui n'a pas voulu cet enfant, le deuxième, puisqu'elle a déjà eu Lise, et puis qui a fait cet acte, enfin, puis qui est mort comme ça. Mais là, il y avait dans les moments des avortements clandestins, quand il y avait des morts, il y avait un silence énorme.
D'autant plus qu'il est militaire.
Oui, voilà. Donc, oui.
Il y a un milieu aussi, hein, qui fait que...
Je pense à un documentaire de Marianne Otero qui raconte ça sur sa mère. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce documentaire, qui est excellent, Histoire d'un secret, et où on voit le silence pesant sur toute la famille, l'impossibilité pour quiconque dans la famille de reparler de ça, parce qu'en fait, elle va interviewer son père, ses grands-parents, à propos de la mort de sa mère. Bon, donc je pense qu'il n'avait pas tellement d'autres solutions, le capitaine, pour faire quelque chose, même porter ce deuil, en fait.
Il aurait aussi préféré avoir un garçon.
Oui, donc, bref, oui, pour qu'il puisse dire aller à l'OM et jouer au foot, oui, bah, classiquement.
Et il faut dire aussi que pour cette adolescente de 13 ans dans cet arrière-pays varois, il y a les gendarmes, il y a les chasseurs, et puis les cigales.
Oui, c'est un peu ça, mais bon, je ne sais pas si vous connaissez les villages de l'arrière-pays varois, c'est pas non plus fun, hein, il ne se passe pas grand-chose, et... Bon, dans un moment comme ça, dans un moment d'été, pour une gamine de 13 ans, c'est mortel. Mmh.
D'ailleurs, dans le roman, il est question de cet univers déprimé de lézards et de pierres.
Voilà, c'est ça.
Il y a beaucoup d'insectes dans le roman.
Oui, parce que finalement, le seul amusement de Lise avant qu'arrive la communauté, c'est d'observer les insectes. Bon, voilà, mais elle est quand même très déçue parce que tous les ans c'est pareil. Avec une fascination quand même pour la cigale, parce que il y a une métamorphose chez la cigale et un danger. Il y a un petit passage, un moment où on voit qu'elle se voit comme une cigale, c'est-à-dire il y a une mue à faire, et au moment où la cigale est sortie au moment où la mue a été faite, la cigale est toute frêle, presque encore transparente, hein, elle va devenir verte et puis ensuite elle va être grillée un peu par le soleil, et à ce moment-là tout le monde va la bouffer. Et c'est une image un peu de Lise qui se dit, moi j'ai 13 ans, je vais me mettre sur le bord de la route et j'attends que quelqu'un m'enlève, mais peut-être qu'on va me bouffer, puisque c'est ce que font Patrick Henry et les autres.
D'ailleurs, pour désigner un peu son univers, Lise dit ici... C'est du rase mode terreux, les tracteurs et les vignes, tu peux toujours plisser les yeux sur l'horizon pour apercevoir les vagues.
Oui, alors elle veut aller à la mer. Il y a aussi une question de voiture dans le village, puisqu'en fait, si les trentenaires ont des R16, qui sont des voitures qui sont capables de faire les 80 km pour aller à la mer, en revanche, dans le village, et ça, moi je me souviens quand j'étais enfant, dans les villages de l'arrière-pays varois, il y avait des vieilles crevardes, c'est ce que dit Lise à un moment, des amis 8. C'est une Camille, vous voyez, des trucs bien, voilà, qui était garé avec le tracteur sur les grands hangars, et puis qui prenait un peu l'herbe, et dont on se dit qu'elle faisait au mieux le tour du village. Enfin, on pouvait pas aller à la mer avec ça. Donc c'est pour ça qu'elle attend quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est capable de faire un peu de kilomètres.
D'ailleurs, j'ai relevé toutes les marques de voitures qui étaient dans le roman. Ça donne ça: Citroën GS, la 4L, la 2 chevaux, la Sim Camille, la R8, la R16, la Diane et le Combi.
Il y en a beaucoup qui sont les voitures de mon père, hein, faut quand même le dire au départ. Sauf les plus crevardes, mais bon, voilà, c'est une question d'époque, mais oui, c'était un peu amusant de dire, tiens, allez, je vais voir les voitures. Et je dis bien les voitures de mon père, c'est intéressant à dire, parce que c'était les voitures de mes parents. Sauf que la voiture appartient au père. D'ailleurs, elles le disent, les femmes qui divorcent, elles disent, de toute façon, le mari, enfin, quand on divorce, il part avec la voiture, et toi, t'as plus rien. Tu peux juste acheter une 4L, c'est ce qui est arrivé à ma mère quand elle a divorcé. Bon, on avait une 4L après, avant on avait une R16, une GS, et puis voilà, les maris, ça part avec la voiture, donc on se retrouve avec des 4L. Ouais.
J'ai constaté, j'ai relevé dans le roman, en ce qui concerne Lise, bien sûr elle a peur de rater sa vie, ça c'est évident, en tout cas elle veut surtout pas la faire au milieu de cette pinède, au milieu des cigales, et des vignes de Provence, mais il y a cette peur de perdre des morceaux de soi. Alors j'ai relevé un grand nombre d'occurrences. Lise se sent en vrac à l'intérieur. Un peu plus loin, enfin c'est d'autres pages, j'ai pas tout noté. Elle s'écrase au sol, ça c'est quand son père tire des coups de feu dans tous les sens. Elle s'écrase au sol en tenant ferme les morceaux d'elle pour qu'ils ne se retrouvent pas éparpillés façon puzzle sous la mitraille. Lise reste dans ses miettes. Il est même question de bouts de chagrin qui dépassent de partout. Là, l'image est très jolie, du bout de chagrin qui dépasse de partout. Et on n'était plus, et ça c'est très beau aussi, j'aime beaucoup cette phrase, on n'était plus tout à fait une femme si on avait des bouts en moins. Qu'est-ce que c'est que cette idée de femme qui n'est pas une femme si elle a des bouts en moins? Bah,
le bout en question, c'est le clitoris quand même, là, faut dire. Hein. Dans le bout en moins, c'est parce que.
Alors, c'est parce qu'il y a des questions d'excision avec Fatoumata.
Donc, la question. Parce que là. Bon, alors je reviens sur Lise ou sur
sur les bouts en moins.
Sur l'excision.
Parce que le personnage de Fatoumata est intéressant aussi.
Qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais alors, ça m'a intéressé de voir. Bon, faut dire que le mouvement féministe des années 70, la libération, le mouvement, le MLF des années 70, a été inspiré par le mouvement des Noirs aux États-Unis. Donc, c'était intéressant de voir la correspondance qu'on pouvait avoir entre les femmes qui se libèrent elles-mêmes sur le modèle des Noirs qui se libèrent eux-mêmes. Donc, ne me libère pas, je m'en charge. Alors là, bien sûr, on a une africaine, on n'a pas une nord-américaine. Mais donc, on voit, il y a un pendant entre le féminisme et le tiers-mondisme aussi chez Grand Coudou. Donc, il libère les femmes et il libère l'Afrique. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut libérer l'autre à sa place? Il y a un auteur américain très intéressant qui s'appelle Stoltenberg qui a écrit un essai, Refuser d'être un homme, dans lequel il fait le pendant du féminisme en disant que si les femmes ont été féministes, c'est-à-dire qu'elles se sont libérées elles-mêmes, de même que les Noirs se sont libérés eux-mêmes, ont pris en charge à un certain moment leur oppression en se disant l'oppression de chacun n'est pas une oppression privée, particulière, psychologique, mais c'est une oppression qu'on peut retrouver chez toutes les femmes parce qu'on est opprimé par le patriarcat. Donc c'était ça la démarche. À partir du moment où on a vu ça chez les femmes, on voit la même chose chez les... Bon, ce que disait, je reviens sur Stoltenberg. Stoltenberg dit que ce que devraient faire les hommes, c'est pas libérer les femmes quand ils sont féministes, mais c'est ne pas s'autoriser à être dans la position de dominant où la société les met. Là où les femmes se libèrent de leur position de dominer, les hommes, c'est pas leur problème, ils n'ont pas à libérer les femmes, ils n'ont pas à parler à la place des femmes et agir à la place des femmes. En revanche, ce qu'ils peuvent faire, eux, c'est se libérer de leur position de dominer.
Oui, parce que non, malgré tout, on est en pleine libération sexuelle, mais tout le roman est parcouru d'oppression sexuelle, justement.
Complètement, oui, complètement. À partir du moment, et Stoltenberg le dit, à partir du moment où on érotise l'inégalité, et c'est ce qu'ils font. Quand on met des talons à une femme, on érotise l'inégalité, parce que si vous voulez courir après, elle va courir moins vite que vous si vous êtes chaussé normalement. Si vous êtes un homme chaussé normalement. Donc, mais vous trouvez ça érotique, et elle le trouve aussi, hein, je ne dis pas que c'est les hommes qui... elle le trouve aussi. À partir du moment où on érotise l'inégalité, on ne peut pas s'en sortir. Les hommes et les femmes étant dans le roman, pour moi, responsables autant hein, les uns que les autres, parce que Tina est la première à vouloir être dans une position féminine, au sens de ce que ça veut dire dans un repère... hétéronormé.
Bon, moins érotique, mais on peut faire une nouvelle petite pause musicale. Ben justement, je proposais qu'on écoute Boney M, Daddy Cool, qu'on aille une petite vague disco dans Wagon Livre, sachant qu'on n'est pas habitué à cela. On se retrouve dans une poignée de minutes avec Isabelle Asensio pour Un poisson sans bicyclette. C'est son dernier roman disponible en librairie aux éditions Verticales.
She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool? We'll be right back.
crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
En toile de fond, une communauté libertaire en plein été 76, ce sont quelques-uns des éléments du roman de notre invitée Isabelle Asensio, invitée des apéros de l'autre monde, puisque l'émission que vous écoutez ce soir sur Radio n'a été enregistrée le 18 juillet dernier à la librairie L'Autre Monde à Avallon et en public. Merci au public. La transition est difficile après Daddy Cool et Boney M. Néanmoins, je laisse la parole à Evelyne Levallois pour aborder un autre aspect donc de Un poisson sans bicyclette, le dernier roman de Isabelle Asensio.
Moi, je voulais revenir sur ce personnage, cette espèce de diptyque dans le roman qui est Grand Coudou d'un côté et Marilou de l'autre. Comment est-ce que ce tandem fonctionne? Parce que ça fonctionne beaucoup par tandem quand même.
Alors, on a, enfin, clairement, c'est les deux idéologues, c'est les deux qui ont une idée de ce qu'ils sont en train de faire comme société. Alors, d'un côté, on a le féministe, ce que je disais tout à l'heure, à la place des femmes, celui qui devrait être en train de se libérer lui-même de sa position de dominant, mais qui, au lieu de mettre en question sa position de dominant, la confirme en libérant les autres à leur place, et font donc des femmes des cruches. Enfin, des potiches en fait, des potiches pleines de miches comme elle dit. Et de l'autre côté, on a Marilou, bon, qui est extrémiste, qui est lesbienne, elle, qui est donc dans la mouvance des women lib américaines.
Mais qui, elle, n'appartient pas au groupe du coup.
Non, et qui a refusé d'aller dans la communauté. Elle fait partie. Alors elles ont monté un groupe femme, comme on faisait dans les années 70, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un groupe femme. Donc est-ce qu'elle veut dans le groupe femme? C'est ce qui se passait dans les années 70, parce que là je me suis renseignée évidemment pour voir comment ça se passait. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui avaient fait ça dans ces années-là. Donc l'idée, c'est de mettre en commun, ce que je disais tout à l'heure, l'oppression particulière, et de considérer que c'est pas une oppression psychologique particulière, mais que ça procède d'une oppression générale qui nous constitue en tant que groupe, on va appeler les femmes. Et c'est pour ça qu'elle veut. Parce qu'on apprend petit à petit, en filigrane, on comprend que Jane a subi dans son enfance des violences de la part de son père. Quelque chose, c'est assez diffus, c'est assez confus, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, ce que veut Marilou, et c'est ce qu'elle a réussi à avoir à la fin, c'est que Jane vienne au groupe femme parler de ça, là où Jane, elle, est en train de considérer qu'elle a un problème personnel, psychologique, ou bien un problème avec son père, en tout cas.
Qui fait que, ou avec son corps.
Ou avec son corps, parce que du coup, le jouir sans entrave ne fonctionne pas du tout pour Jane, elle fait tout ce qu'elle peut pour ça, mais jouir, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a de l'autre côté, il y a l'excision, parce que c'est la question de, elle voit en face d'elle quelqu'un aussi qui a un corps qui sexuellement ne va pas fonctionner, et bon voilà, il y a toute une affaire, mais on n'a pas le temps d'en parler là. Mais l'idée du groupe femme, ce que veut Marilou, c'est qu'on considère non pas qu'on a chacune des expériences personnelles qui n'ont rien à voir avec les autres femmes, mais que c'est le patriarcat qui est responsable de ça, et c'est parce que le corps des femmes est à disposition des hommes dans le patriarcat qu'on en est toutes arrivées là. Enfin, et ça crée une communauté, c'est exactement sur le modèle de ce qu'ont fait les Noirs aux États-Unis en fait. Et ça constitue le groupe des femmes. On commence par dire on est femmes parce que on est les victimes du patriarcat, et on peut imaginer une société qui avance et qui fait que ce groupe des femmes n'existe plus en tant que groupe. Peut-être qu'on va aller vers ça, peut-être que c'est ce qui... Mais si c'est le groupe qui subit la même oppression, tant que c'est le groupe qui subit la même oppression, c'est ça, les femmes, elles sont définies finalement non pas par une essence, mais par une oppression.
Enfin, des femmes victimes du patriarcat, puis Grand Coudou victime d'un mauvais totem.
Oui, alors c'est ce que dit, c'est ce que finit par dire Fatoumata à la fin, parce qu'il faut bien finir le roman à un certain moment. Oui, et le personnage de Fatoumata, moi je le trouve très intéressant, j'en ai pas vraiment fait le tour, je sais pas très bien pourquoi elle est arrivée là, et à un certain moment je me suis dit, a posteriori, en relisant des textes théoriques de l'époque, je me suis dit que c'était bienvenu qu'on ait une personne, une femme qui vient d'un village africain, et qu'on puisse voir un peu le rapport qu'il y a dans... Parce que le rapport à l'excision est assez intéressant. Les filles sont complètement outrées, elles sont presque malades à l'idée qu'elle a été excisée. Et là, elles reproduisent à nouveau une domination impérialiste. Puisque, en fait, Fatou, elle leur dit, mais c'est à vous qu'il faudrait demander ce que ça fait. Parce que les filles lui disent, mais ça fait quoi de plus avoir de clitoris, ça fait quoi? Et elle se tourne vers les filles, elle dit, mais c'est à vous qu'il faudrait demander. Parce que les filles, elles sont en train de se frotter toutes contre le bord de la fenêtre, parce qu'il y a Vince qui fait le singe derrière, et elles sont toutes complètement excitées par le bellâtre qui est dehors, et elle leur dit, mais c'est à vous qu'il faudrait demander comment ça fait, c'est quoi votre truc là, il vous arrive quoi? Et c'est un retournement, parce que c'est regarder l'excision uniquement d'une façon misérabiliste. Alors, je ne suis pas en train de défendre l'excision du tout, là. Hein. Mais c'est une position... Là, en tout cas, pour les femmes, c'est une position impérialiste. Tu parleras de ta position quand tu sauras... Enfin, tu te tais tant que tu ne sais pas de quoi tu parles, en fait, c'est ça.
Grand Coudou, il est présenté à la fin du roman comme le prince féministe des méninges et macho de la braguette.
Comme tout le monde.
Ça, c'est pas mal,
comme
ça.
Tout le monde. Il y a... Ouais, macho de la braguette, comme tout le monde.
Ah bon?
Oui, ça va, c'est ce qui est écrit dans le roman.
Ah bon? Et ensuite, il y a un élément intéressant sur la maternité de Jane, le thème de la maternité. Oui. C'est Marie-Lou, me semble-t-il, qui dit, à propos de Jane, elle était une mère mal finie et pas naturelle.
Oui, alors, c'est parce que...
Pourquoi en fait, mal finie?
Parce que, en fait, Jane a aussi des problèmes avec sa fille. Elle est violente avec sa fille. Bon, alors, on ne sait pas très bien... Il y a toute cette enfance qu'on sent un peu derrière. Bon, elle est une mauvaise mère, quoi. Et alors, évidemment, si on continue à dire que par nature, les femmes, parce qu'elles sont enceintes et parce qu'elles accouchent, il leur vient une espèce d'instinct qui font qu'elles sont... Bon, voilà, elle est complètement ratée, si
mais
on dit ça.
Mais y a-t-il de bonnes mères? C'est la question, ça aussi.
Des assez bonnes mères, on essaie de l'être, mais mais oui, mais il y a pas. Là, on est encore sur la question de l'essentialisme ou pas. Est-ce que le féminisme essentialiste dirait il y a une, ou les essentialistes en général dirait il y a un instinct maternel. Et Jane, elle dit bah non, moi je suis empêchée de ça aussi en fait.
Et Liz pourrait être un peu une petite maman de substitution.
Oui, ou alors peut-être aussi ou une enfant de substitution, parce qu'en fait Jane. Imaginons que Liz, à 13 ans, est en train de vivre, parce qu'elle imagine, elle fait partie des fantômes, que Liz est en train de vivre la même chose que ce qu'elle a vécu, elle, dans son enfance avec son père. Elle va sauver Liz de quelque chose qui n'est pas vraiment là, mais elle va sauver Liz comme elle ne peut pas se sauver elle-même. Elle sauve la petite, en fait. Et elle arrive à avoir le geste qui fait qu'elle se réconcilie avec sa propre gamine après. Enfin, elle invente le geste pour une autre que sa propre fille.
Les auditrices et les auditeurs auront bien compris que les thématiques sont nombreuses et le temps va nous manquer pour tout aborder. Evelyne, un dernier point rapide, s'il te plaît.
Oui, l'échec de la communauté, est-ce que pour vous ça signifie l'échec de mai 68?
Alors c'était une question très intéressante, il faudrait leur demander. Moi je vis avec les personnages et je suis un peu enfin je sais pas, il n'y a jamais de regard surplombant dans le roman, on épouse les personnages, donc je me sens aussi brêle qu'eux finalement, hein. Souvent je les vois faire et je fais avec eux, donc est-ce que c'est l'échec de 68? Ça, c'est énorme de considérer que l'échec des frêles puisse signifier l'échec global de 68. Ce que je dirais moi c'est que c'est, la question que j'ai envie de me poser moi c'est que faire après l'échec de cette communauté? Bon, ils avaient des idéaux, ça vient de 68, ça ne marche pas pendant cet été 76, on les laisse comme ça à la fin du roman. Moi, je pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Et c'est un peu la question que je voudrais qu'on se pose aussi, nous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Et je crois qu'il faudrait qu'ils se mettent ensemble autour d'une table et puis qu'ils réfléchissent proprement, en fait. C'est pas fini pour autant. D'abord, il y a eu des réussites personnelles dans ce roman. Il y a des gens qui sont sortis de leurs ornières, quand même. Jane, Liz, enfin, il y en a... Mais même du point de vue communautaire, il y a la possibilité de tout remettre à plat et de dire, bon, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? C'est pas fini pour moi. Bah, le roman est fini, mais c'est pas fini.
Il n'y a pas un volume 2, quoi.
On va pouvoir le faire peut-être, mais ça sera moins intéressant.
En tout cas, on ne peut pas trop escargoter. C'est pas mal le néologisme. Hein. On escargote, ça cigale. J'ai même relevé les mains glueuses. Madame l'agrégée de lettres, comme ça on triture la langue, on la déforme, on la maltraite ou on l'enrichit, hein, c'est un peu défense illustration.
Alors je sais pas très bien pourquoi ça se fait comme ça, mais Oui, la langue est travaillée et elle est travaillée de manière différente. On a un narrateur, on n'est jamais en jeu, on est un narrateur en troisième personne, mais qui épouse d'une certaine manière un petit peu les deux personnages, une fois Liz, une fois Jane, et qui est... Alors, j'ai pas voulu être en narration en jeu, parce que ça m'aurait enlevé... Enfin, on n'imagine pas que Liz puisse dire « j'escargote ». Il y aurait trop... Bon, il faut être Émile Ajar pour réussir à faire ça, au moins faire parler un adolescent comme ça... Je trouvais ça compliqué, donc c'est un peu mouvant. Il y a un narrateur qui se fond de temps en temps dans Liz, et on sent que c'est les paroles de Liz, mais qui en même temps a des libertés comme ça d'écriture. Et pareil avec Jane. Mais il me semble que s'il n'y a pas un décalage et une façon de casser la langue, on ne va pas avoir un paysage nouveau non plus.
En tout cas, on a, je crois, Evelyne et moi-même, pris beaucoup de plaisir à lire. Donc, Un poisson sans bicyclette, c'est le dernier roman d'Isabelle Asensio. On est obligé de mettre un terme à notre émission. Mais il y a cette, par exemple, c'est très joli, il y en a plein. Quand le soleil lui avait fait trop de suçons partout. J'aime bien ça.
En même temps, moi je suis rousse et par expérience, je peux vous dire que ça ressemble vraiment à ça. Le sud de la France.
Un poisson sans bicyclette, donc merci Isabelle Asensio d'avoir été l'invitée de Wagon Livre. Nous pouvons effectivement vous remercier dans vos applaudissements. Et je laisse la parole à Evelyne Levallois, libraire à l'Autre Monde à Avallon, pour des informations sur les prochaines rencontres de la librairie 42 Grande Rue. À Avallon, bien sûr.
Le 19 septembre, nous recevrons Daniel Chambon. Le 19, les éditions Rhubarbe.
Alors, le 12 septembre, Daniel Chambon.
12 septembre.
Et le 19, les éditions Rhubarbe.
J'ai tout mélangé ? Bah, bravo. Le 4 octobre, monsieur Jean Radvani. Le 24 octobre, enfin, une animation autour de la poésie. Ensuite, on passe au mois de novembre, on recevra Patrick Dubost, Lydie Salvert, Julia Deck, Marie-Hélène Lafont. Ensuite, en décembre, Olivier Truc. On fera encore quelque chose autour de la poésie. Enfin, voilà, un deuxième semestre très chargé.
Très beau programme, ambitieux, audacieux. Merci, Evelyne. On espère pouvoir aussi les faire partager à nos auditrices et auditeurs. C'était le Wagon Livre avec Isabelle Asensio. Donc, Un poisson sans bicyclette, disponible entre autres à l'Autre Monde, hein, 42 Grande Rue à Avallon. Merci à Carole, à Michel et à Evelyne Levallois de nous accueillir dans leur librairie. Et puis, on donne rendez-vous aux auditrices et auditeurs de Wagon Livre mercredi prochain. Et je remercie notre public si participatif. Bonsoir à tous et à toutes.